Chapitre 45. Après l'autoroute. Edith Schwartz, la femme de ménage de Palmkrona, n'a pas le téléphone. Elle habite environ 70 km au nord de Stockholm, vers Knivsta. Dans la voiture, Jonas est silencieux. Sa gare remonte Sveavägen, puis il quitte le centre-ville par Norrtull et rejoignent l'autoroute en prenant la sortie de l'hôpital Karolinska. « La CEPO a terminé ses recherches dans l'appartement de Pénélope, » dit-elle. « J'ai parcouru tout le rapport et, visiblement, elle n'a aucun lien avec des groupuscules d'extrême-gauche. Au contraire, elle s'en désolidarise complètement. C'est une pacifiste affirmée et elle s'oppose publiquement à leur méthode. » J'ai aussi consulté le peu d'éléments réunis sur Björn Almskog. Il travaille pour la boîte de nuit de Baser, à Medborgarplatsen. Il n'est pas politiquement actif, mais a été appréhendé par la police à l'occasion d'une fête de rue organisée par Reclaim the City. Les gris noirs du cimetière Nora et la végétation du parc Haga défilent à toute allure de chaque côté de la voiture. « J'ai vérifié nos archives, » dit lentement Saga. Tout ce qu'on possède sur les extrémistes de gauche et de droite à Stockholm, ça m'a quasiment pris toute la nuit. Ces documents sont évidemment classés confidentiels, mais il faut que tu saches que la CEPO a commis une erreur. Pénélope et Björn ne sont aucunement impliqués dans la préparation d'un attentat ou d'un quelconque acte terroriste.
Alors tu as abandonné cette piste.
Tout comme toi, je suis persuadé qu'il s'agit d'une affaire qui se joue à un tout autre niveau, bien au-delà des extrémistes de gauche ou de droite. Un niveau qui dépasse sans doute largement les domaines de compétences de la CEPO et de la Rikskrim. Je veux dire, la mort de Palmkrona, l'incendie dans l'appartement de Björn, la mort de Viola. Là, on a vraiment affaire à autre chose. Un silence s'installe pendant lequel Jonas se remémore la conversation qu'il avait eue avec la femme de ménage, lorsqu'elle lui avait demandé s'ils avaient descendu Palmkrona.
« Qu'est-ce que vous voulez dire par descendre ?»«
Je vous demande pardon, je ne suis qu'une simple femme de ménage. Je pensais... »
Il lui avait ensuite demandé si elle avait vu quelque chose de particulier.
« Un nœud coulant dans le crochet au plafond du petit salon. »«
Vous aviez vu le nœud ?»«
Évidemment. »«
Évidemment, » répète intérieurement Jonas en fixant l'autoroute. Un mur anti-bruit rouge s'étend devant les zones résidentielles et les terrains de football sur le côté droit de la chaussée. Le ton sec employé par la femme de ménage lorsqu'elle avait prononcé le mot « évidemment » résonne dans la tête de Jonas. Il se le répète encore et encore, et revoit l'expression sur son visage lorsqu'il lui avait expliqué qu'elle serait convoquée au commissariat. Elle n'avait montré aucune espèce d'inquiétude et s'était contentée de hocher la tête. Il dépasse la ville de Rotebro. C'est là qu'ils avaient exhumé la dépouille de Johan Samuelsson, enterrée depuis 10 ans dans le jardin de Lydia Evers. Il l'avait trouvée en cherchant Benjamin, le fils d'Eric Maria Bark. C'était l'hiver à l'époque. Désormais, la végétation a envahi les anciennes voies ferrées et s'est développée autour des parkings, des lotissements et de villas. Jonas appelle Nathan Pollock à la Rikskrim, qui décroche après seulement 2 sonneries.
« Nathan, » répond-il d'une voix légèrement nasillarde. « Avec Tommy Koufoued, vous aviez examiné les traces de pas qui formaient des cercles sous le corps de Palmkrona. »« L'enquête préliminaire a été classée, » répond Pollock qui pianote sur un ordinateur.
« Oui, mais maintenant... »«
Je sais, » l'interrompt-il. « J'ai discuté avec Carlos. Il m'a informé de l'évolution des événements. »«
Tu pourrais y jeter un œil à nouveau ?»
Je suis précisément en train de le faire.
Parfait. Tu auras terminé quand, tu crois?
Maintenant. Les empreintes de pas sont celles de Palmkrona et de son employé de maison, Edith Schwartz.
Personne d'autre?
Non.
Saga maintient la vitesse de la voiture à 140 km à l'heure et roule toujours en direction du nord, sur la route européenne 4. Jonas et Saga se sont rendus ensemble au commissariat afin d'écouter l'enregistrement de l'interrogatoire d'Edith Schwartz. Ils y ont également consulté les commentaires écrits par John Bengtsson lors de l'entretien. Après les formalités habituelles, John Bengtson lui explique que les enquêteurs ne soupçonnent pas un crime, mais qu'il espère qu'elle pourra l'éclairer sur les raisons pour lesquelles Karl Palmkrona a décidé de mettre fin à ses jours. Il y a un moment de silence, seulement interrompu par le faible bruissement des ventilateurs, les grincements d'une chaise, le bruit d'un stylo sur une feuille. Dans son compte-rendu, John Bengtson a écrit que, en raison de l'indifférence manifeste d'Edith Schwartz, il choisit d'attendre qu'elle prenne la parole. Un peu plus de 2 minutes s'écoulent avant qu'elle ne dise quoi que ce soit. Et 2 minutes, assis face à un policier et à une bande qui tourne dans le vide, c'est long.
« Monsieur le directeur avait-il enlevé son manteau ?»
lance-t-elle soudain.
« Pourquoi demandez-vous ça ?»
répond aimablement John Bengtson. Elle se tait de nouveau. Après un silence d'environ 30 secondes, John prend la parole.
« Avait-il son manteau lorsque vous l'avez vu pour la dernière fois ?»«
Oui. »
« Vous avez dit à l'inspecteur Lina avoir vu un nœud fixé au plafond ?»«
Oui. » »«
Quel usage pensiez-vous qu'il en serait fait ?» Elle ne répond pas. « Depuis quand était-il accroché là ?»«
Depuis mercredi, » répond-elle calmement.
« Vous avez donc constaté qu'il y avait un nœud au plafond le 2 juin au soir. Vous êtes rentré chez vous. Le lendemain matin, le 3 juin, le nœud était toujours là. Vous avez vu Palmkrona, vous avez quitté l'appartement et vous êtes revenu à 14h30 le 5 juin. Et c'est là que vous avez rencontré l'inspecteur Lina. »
John Bengtson indique dans son compte-rendu que, en guise de réponse, Edith a haussé les épaules.
« Pourriez-vous nous décrire ces quelques jours ?» demande Bengtson.
« Je suis entré dans l'appartement du directeur Palmkrona le mercredi à 6h du matin. » Je n'ai le droit d'utiliser ma clé que le matin car M. Palmkrona dort jusqu'à 6h30. Il est très à cheval sur les horaires. Il ne fait pas de grasse matinée, même le dimanche. J'ai moulu du café dans le moulin manuel. J'ai coupé 2 tranches de pain, puis je les ai recouvertes avec du brégote salé, 2 tranches de pâté aux truffes, des concombres marinés et 1 tranche de cheddar sur le côté. J'ai mis la table en utilisant du linge de maison à midonner et la porcelaine d'été. Les journaux ne doivent comporter aucune publicité ou page sportive. Je les ai donc retirés et j'ai posé les journaux pliés en 2 à droite sur la table. »
Avec une incroyable précision, elle décrit de quelle façon elle a cuisiné les steaks de veau à la crème fraîche du mercredi, ainsi que les préparatifs du déjeuner de jeudi. Elle achève son récit par le moment où, samedi, elle sonne à la porte avec les provisions pour le week-end, puis se tait.
« Je comprends que ça soit difficile pour vous, » dit John Bengtson après un moment. « Mais je vous écoute depuis tout à l'heure et vous avez passé en revue les journées du mercredi et du jeudi dans leurs moindres détails, mais pas une seule fois vous n'avez fait allusion à quoi que ce soit ayant un lien avec le décès de Karl Palmkrona. »
Une fois encore, elle conserve le silence.
« Je vous demande de fouiller dans vos souvenirs, » poursuit patiemment Bengtson. « Saviez-vous que Karl Palmkrona était mort lorsque vous avez sonné à la porte ?»
« Non. »
N'avez-vous pas demandé à l'inspecteur Lina si nous avions descendu son corps ?»
demande John avec une certaine impatience.
« Si. »
« Vous l'aviez déjà vu mort ?»«
Non. »
« Mais merde !» dit John d'un ton agacé. « Vous ne pouvez pas simplement raconter ce que vous savez. Qu'est-ce qui vous a fait demander si on l'avait descendu ? Vous l'avez bien posé cette question. Pourquoi l'avez-vous fait si vous ignoriez qu'il était mort ?»
Dans son rapport, John Bengtson avait noté qu'il avait fait l'erreur de s'emporter à la suite de ses réponses évasives. Après qu'il avait haussé le ton, elle s'était refermée comme une huître.
« Est-ce que je suis accusé de quelque chose ?»
demande-t-elle froidement.
« Non. »
« Alors nous en avons terminé. »
« Cela nous aiderait beaucoup si... »«
Je ne me rappelle rien d'autre !»
l'interrompt-elle en se levant de sa chaise. Yona jette un œil à Saga dont le regard est fixé sur le poids lourd qui avance à vive allure devant eux.
« Je réfléchis à l'interrogatoire de la femme de ménage, » dit Yona.
« Moi aussi. »
John s'est énervé contre elle. Il pensait qu'elle se contredisait. Il affirmait qu'elle savait que Palmkrona était mort lorsqu'elle a sonné à la porte.
« Oui, »
répond Saga sans le regarder.
« Elle a dit la vérité. » Elle ignorait s'il était mort, même si elle y a pensé. C'est pour cela qu'elle a répondu par la négative à sa question.
Edith Schwartz semble être une femme assez particulière.
Je crois qu'elle essaye de nous cacher quelque chose sans avoir à nous mentir.